Bonsoir, c'est Evelyne pour le podcast Trouver dans les rayons. Donc ce soir, je vais faire un épisode spécial. Je vais vous parler de différentes choses, puis j'ai reçu aussi un commentaire audio, mon premier commentaire audio, c'est chouette. Puis j'ai reçu aussi une question de Iris Boudreau, la célèbre autrice de bande dessinée québécoise. Donc je vais répondre à sa question, puis je vais parler principalement de mon travail en bibliothèque. C'est cela. Donc, allons-y. Donc, Iris m'a envoyé une question. Je vais vous la lire tout de suite. OK, c'est écrit. C'est par courriel qu'elle me l'a envoyé. Donc, allô Evelyne. Allô Iris. Bravo pour ton podcast. Je découvre vraiment des livres intéressants. Je viens d'emprunter Artemisia à la bibliothèque. C'est super chouette. Je suis super contente d'entendre ça, Iris. Ça me fait plaisir que, surtout en plus que tu l'empruntes à la bibliothèque, c'est vraiment trop chouette. Après ça. J'aimerais savoir, dans les premiers épisodes, tu nous as parlé de livres jeunesse. Je sais qu'en bibliothèque, tout est très classé et que ça fait partie de comment ça fonctionne dans les institutions. Mais toi, tu en penses quoi? Du besoin qu'on a de classer les livres selon qui devrait les lire? Quand tu lis un livre jeunesse, tu te mets dans la peau de la jeune Evelyne ou bien tu lis le livre avec tes yeux d'adulte? J'aimerais avoir ton avis de lectrice et de professionnelle du livre. Ouh là là, je ne sais pas si on peut me qualifier de professionnelle du livre, mais OK. Aussi, de manière générale, j'aime quand tu nous parles de ton travail en bibliothèque, des tâches qu'il y a à faire. J'aimerais en savoir plus là-dessus à travers les épisodes. Merci, signé Iris. Merci, Iris. OK. Donc... Je réponds à la première partie de ta question, Iris. Alors, en bibliothèque, il y a deux grandes catégories de documents. Il y a d'un côté les documents classés adultes, de l'autre côté les documents classés jeunesse. Puis parmi les documents classés jeunesse, il y a différentes sous-catégories d'âge, de tranches d'âge. La première pour les tout petits-petits, c'est celle qu'on appelle tout petit, justement. C'est surtout des documents cartonnés avec des pages renforcées en carton à l'épreuve des bambins. Sont souvent aussi plastifiés. Puis, c'est souvent comme genre des trucs éducatifs, découvrir les formes, les couleurs, des choses comme ça, avec souvent des petits éléments interactifs, tout ça. Après ça, tu as les documents qui sont classés petits. Ça, c'est souvent les livres premier roman, des documentaires aussi plus qui contiennent beaucoup plus d'images, avec moins de texte, avec aussi des albums... Les albums d'images, c'est-à-dire comme les albums d'images, c'est souvent ce qu'on pense aux livres jeunesse dans cette catégorie-là. Donc, tu as une histoire, un récit, soit une fiction, des fois éducative, des fois pas, des fois juste comme imaginaire. Puis tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'illustrations. Ça, j'aimerais vraiment ça faire des livres comme ça, là, parce que tu peux vraiment te laisser aller dans ta page d'illustration, contrairement à une BD, où il faut que tu sois comme quand même... c'est efficace, t'as un dessin simplifié un peu, là, pas autant que dans du dessin animé, mais tu sais, quand même. Tandis que là, dans un album jeunesse comme ça, ben tu sais, tu peux aller te perdre dans les détails, faire des belles, belles, belles illustrations avec des couleurs, puis tout. Puis d'un autre côté, t'as du texte aussi, avec une histoire. En tout cas, bon. Après ça, t'as aussi les documents qui sont classés jeunes, si on veut. Puis ceux-là, c'est genre à peu près 8 à 12 ans. 8 à 13 ans, disons. Puis, donc là, tu as des romans qui commencent à être beaucoup plus volumineux, avec, tu sais, beaucoup plus de choses. Surtout les affaires, là, genre le journal d'Aurélie, le journal de Sophie, de Joséphine, de Joe, c'est plein d'affaires de journal d'ado. C'est populaire. Puis, tu as aussi, ben là, tu as des documentaires, tu sais, avec un peu plus de contenu, tout ça, là, aussi, qui sont dans cette catégorie-là. Tu as beaucoup d'affaires, là, genre l'adolescence, c'est quoi? Les gars, les filles, c'est quoi? Tu sais, le disco, parce que c'est plus cool que le dictionnaire, le disco des filles, le disco des gars. En tout cas, ces documents-là que je trouve des fois un peu problématiques là, pour les questions de genre. J'en reparlerai peut-être tantôt. Puis, donc, tu as aussi les bandes dessinées qui en a des petits, qui ont presque pas de texte. Puis t'en as qui sont parfois souvent muettes. Puis après ça, t'as les bandes dessinées jeunes. Puis t'as aussi, depuis, je te dirais, environ peut-être environ depuis un an au moins, parce que ça fait pas longtemps. Il y a aussi les albums, la catégorie adolescente, qui est classée comme 14 ans et plus. Donc, des fois, elle est dans, ça dépend des bibliothèques. Des fois, elle est dans la section adulte, des fois, dans la section jeunesse. Dans le fond, c'est des documents, soit dans la section jeunesse, ou soit dans la section adulte, que les bibliothécaires considèrent qui sont intéressants pour des adolescents, qui ont été réunis ensemble. Sauf que, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas comme de catégorie d'âge spéciale adolescent, donc il faut avoir une carte qui est classée adulte. Pour avoir une carte classée adulte, c'est 14 ans et plus. Mais souvent, tu sais, il y a des jeunes qui ont comme, je ne sais pas, moins de 12-13 ans, qui s'intéressent à ces documents-là, mais ça, ils ne peuvent pas les emprunter. Il faut qu'ils se présentent au comptoir avec le document. Il faut qu'ils demandent la permission pour les emprunter, soit à la bibliothécaire, ou soit si leurs parents sont d'accord, tout ça. Fait que c'est pas tout à fait, je trouve, idéal pour eux autres. T'sais. Justement, si on parle de catégories d'âge, là, comme ça. Ce qui fait que la classification des documents, c'est, dans le fond, d'un côté, tu as la tranche d'âge, de l'autre côté, tu as le type de document. Donc, tu peux avoir BD jeunesse, BD pour petits, documentaire jeunesse, documentaire petit, adolescent, comme ça. Donc, c'est ça, c'est un peu comme ça que c'est classé. C'est sûr que c'est des catégories, tu sais, un peu artificiel, c'est certain que, tu sais, il y a les lecteurs et les lectrices, ils ont une fluidité, tu sais, ils vont s'intéresser. Tu t'intéresseras jamais uniquement à ta catégorie d'âge. Souvent, quand tu es jeune, tu sais, c'est sûr que tu vas avoir des fois des jeunes qui vont s'intéresser à des documents un peu plus jeunes que pour eux autres. Il y en a d'autres qui vont s'intéresser à des documents un peu plus vieux que pour eux autres. Puis, même à des documents pour adultes, tu sais, il y a comme un glissement, les utilisateurs, tu sais, s'intéressent à différents documents comme ça. Puis il y a aussi beaucoup d'adultes, des fois, qui s'intéressent aussi à des documents plus jeunesse. C'est comme, des fois, je vois des adultes qui lisent beaucoup de romans pour jeunes adultes, là, comme la série The Hunger Games, c'est pas le même. Donc, il y a ça aussi, tu sais. Puis, des fois, je pense qu'il y a des documents aussi adultes, tu sais, qui sont très appropriés pour des jeunes qui ont, sont entre, je sais pas, 12-14 ans. Fait que je pense que idéalement ça prend une certaine flexibilité. C'est sûr que les bibliothécaires, pas nous autres, les aides bibliothécaires, on n'a pas ce pouvoir-là de décision, mais les bibliothécaires peuvent utiliser leur jugement puis dire si un enfant, un jeune veut emprunter un livre qui est hors de sa catégorie d'âge, et puis la bibliothécaire peut discuter avec le jeune puis évaluer si c'est correct de lui faire le prêt. T'sais. Ce qui arrive souvent, je dirais, là, heureusement. Ça, c'est une de mes peurs. J'ai peur que des fois que les bibliothèques deviennent trop rigides par un souci de d'uniformisation, des règles, des protocoles, tout ça, puis que ça nuit aux usagers, parce que je pense que, tu sais, dans une bibliothèque, idéalement, il faut qu'il y ait quand même des rapports comme social, plus organique, ou que, tu sais, les gens peuvent discuter entre eux autres, puis voir ce qui convient à leurs besoins, tout ça, tu sais, qu'on fait des conseils de lecture, qu'il peut y avoir comme une relation qui se développe un peu aussi entre... le personnel, puis les usagers, tout ça, conseiller des lectures, choses comme ça. C'est sûr que tu veux pas non plus que ces relations-là deviennent trop prenantes, puis trop, tu sais, difficiles à gérer, mais quand même, je pense que ça prend une certaine... c'est un peu friendly, tu sais, ce soit un peu comme amical, tout ça, pour que ça soit agréable d'aller comme en bibliothèque. Tu sais, je dis en bibliothèque, c'est pas juste un... comment dirais-je, un service administratif, là, tu sais, c'est aussi un service interpersonnel, puis, tu sais, c'est un lieu de culture, puis tout ça. Mais bon, c'est certain que l'utilité de classer les choses dans la bibliothèque comme ça, c'est aussi un moyen de repérer les documents. C'est surtout ça, je pense, la fonction principale de classifier, de faire des catégories, tu sais, c'est pouvoir dire, ah oui, tel document est dans telle catégorie, donc tu vas le retrouver à tel endroit. Tu sais, ça permet aussi de repérer les documents comme ça. Puis ça l'aide aussi pour le bouquinage. C'est quelqu'un qui bouquine, il peut dire ok, je vais aller voir dans telle catégorie, dans telle place, je vais avoir comme telle catégorie de documents. Tu sais. comme avant, avant la bibliothèque, tu avais des séparations, des fois avec des genres de fiction, là, quand dans la section roman. Tu avais, supposons, roman policier, roman science-fiction. C'est à peu près les deux catégories qu'il y avait. Puis, ça, c'est certain que certains usagers appréciaient ça parce que ça leur permettait de bouquiner par catégorie. Mais là, vu que c'est trop compliqué à gérer comme l'ajout des documents dans les bibliothèques, parce que tu sais, quand les bibliothécaires font des acquisitions de documents, ils ne peuvent pas calculer, OK, là, j'ai de la place pour tant de documents de science-fiction, tant de documents policiers, donc il faut que j'achète pas trop de documents policiers. T'sais. Ils ne fonctionnent pas comme ça. Ils achètent comme. Ils font l'acquisition des documents selon ce qui est proposé par les libraires, par les fournisseurs, selon eux aussi, qu'est-ce qu'ils veulent acheter dans la bibliothèque, tout ça. Mais je pense que ce serait trop compliqué de calculer l'espace disponible selon chaque sous-catégorie. Donc, maintenant, c'est plus facile de gérer. On va mettre tous les romans ensemble. Puis comme ça, on n'a pas besoin de dire « OK, mais là, est-ce que je vais rajouter trop de science-fiction dans mon espace physique? » Là, t'sais. Donc, ça a comme des avantages pour le bouquinage, mais par contre, ça a des avantages pour le classement, pour gérer l'espace disponible en rayon. T'sais. Il y a ça aussi là, à considérer dans toutes ces choses-là. Donc, ouais. Ah, c'est à peu près ça, oui. Puis donc, tant qu'à moi, lorsque je fais la lecture de documents de jeunesse, ce que je lis comme adulte, comme jeune, je sais pas, c'est difficile à dire ça. Je pense que je deviens comme une fusion des deux. J'ai comme les deux. Je me laisse aller à croire comme à retrouver un enthousiasme de jeune, d'une certaine comme. Pas naïveté, comment je pourrais dire, tu sais, comme de voir ça d'un regard comme qui va accepter plus de choses invraisemblables ou de, je sais pas, tu sais, je vais m'enthousiasmer pour des choses cute, pour des choses comme amusantes, tout ça, tu sais, je me laisse comme aller, puis en même temps, c'est certain que j'ai aussi un regard, tu sais, d'adulte qui analyse un peu les choses, qui voit les thèmes, des fois, tu sais, qui me disent « Ah oui, ça, j'aime ça, cette illustration-là, je pourrais comme me servir de cette technique-là dans mon propre travail d'illustratrice, tu sais. » Donc, tu sais, moi, je pense que je vois comme, quand je fais de la lecture jeunesse, je pense que ça, j'ai comme une espèce de double regard simultané. C'est un peu des deux, là, tu sais. J'oublie pas mon côté adulte, mais oui, je me laisse un peu plus aller... dans mon côté jeunesse, de garder. Mais tu sais, je suis quelqu'un en général qui a conservé sa capacité d'émerveillement, puis d'enthousiasme pour beaucoup de choses là, qu'on trouve que je trouve cute, que je trouve comme touchante, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr, des fois, il y a des histoires jeunesse qui m'émeut beaucoup, là, tout ça. Ou des fois, il y a des choses que je me dis ah, j'aurais tellement aimé ça, lire ça quand j'étais plus jeune, tu sais. Des fois, il y a ça aussi. Des fois, je me replace aussi comme avant. Je me dis. Ah oui, ça aurait été vraiment chouette si j'avais eu ce livre-là plus jeune. T'sais. Ou des fois, je me dis aussi, ah, ça, c'est vraiment un bon livre pour les jeunes. Aujourd'hui, je suis contente que ça existe, ce livre-là, pour eux autres. T'sais. C'est comme. Puis d'autres fois, je me dis, oh my god, ça, c'est pas super bon, là. Justement, toutes ces espèces de livres-là, le dictionnaire, le dico des filles, le dico des gars, c'est quoi être adulte, pas adulte, mais ado, toutes les affaires comme qui parlent de. Un peu d'éducation de genre sexuelle ou de c'est quoi devenir un ado pour d'avoir des. C'est tellement. C'est tout édité en France, OK? Toutes des maisons d'édition françaises de France. Puis c'est tellement binaire, c'est tellement comme genré, conventionnel, qui prennent un point de vue straight, hétéro, straight, hétéro, cisgenre, là, tu sais, c'est vraiment comme. Ah, oh my god, tu sais, quand tu dis ça, là, c'est comme. Puis, tu sais, des fois, oui, ils vont parler des choses alternatives, des choses. Ils vont parler, supposons, ils vont dire, ah, oui, des personnes trans, ça existe, tu sais. Ou, oui, des personnes gays, homosexuelles, ça existe. Mais, tu sais, c'est jamais comme, genre, pour s'adresser aux jeunes. Ils prennent peut-être pour acquis que le jeune qui va lire le livre, là, est hétéro, puis qu'il est cisgenre, tu sais. Ça s'adresse jamais comme aux personnes, aux jeunes LGBT. Ça s'adresse tout le temps comme à des jeunes hétéros, ce genre. Puis, je trouve que ça fait un effet de... que ça présente comme les personnes LGBT comme les autres, tu sais, comme si genre, ah oh non, inquiète-toi pas, ça, c'est pas toi, tu sais, mais ça existe, mais c'est d'autres personnes, tu sais, différentes. C'est bien des aimés, ils sont gentils, mais tu sais, toi, tu vas être quelqu'un de bien et de normal, tu sais. C'est un peu ça le feeling que ça me donne la plupart de ces livres-là, tu sais. J'ai pas encore vu un livre dans ce style-là que j'ai fait comme, ah oh, wow, tu sais, c'est bien présenté, c'est bien équilibré, tu sais, c'est ça. Non, tu sais. Donc, j'en profite pour faire une mention à la revue Curium, qui est éditée ici au Québec, puis qui a fait vraiment des beaux dossiers. Tu sais, c'est une revue jeunesse, là, mensuelle. Puis, donc, dans Curium, il y a eu des beaux dossiers là, sur les personnes LGBT, tu sais, sur... l'orientation sexuelle, sur aussi l'identité de genre, dont un numéro là, avec Axel Lenoir, là, qu'elle a illustré, ça, puis qu'elle a parlé de son cheminement là, en tant que femme trans, tout ça. Je trouve ça, bon, vraiment bien, tu sais, tout ça apporté d'un regard sympathique, puis qui avec une bonne énergie positive. Je trouve que Curium, c'est vraiment chouette, puis ça parle de plein d'autres choses, ça, c'est juste ce que j'ai remarqué, puis c'est sûr que ça me touche, tout. Mais tu sais, puis en plus, il y a les BD de Iris dedans, donc sérieux, si vous avez des jeunes, là, genre, je sais pas, moi, 8 ans, peut-être 12 ans, je sais pas exactement les tranches d'âge, là, mais en tout cas, dans ces eaux-là, tu sais, ce sera un beau cadeau de leur offrir un abonnement à Curium, publicité ici, là, mais ouais, c'est une chouette revue québécoise. Je pense qu'il faudrait l'encourager le plus. Ouais. Donc, c'est ça. Je pense que oui, tu sais, il faut. Quand je fais la lecture comme ça de jeunesse, là, j'ai comme une espèce de regard ouvert là, sur toutes ces choses-là. Bon, pour la deuxième, ben, comme pour la dernière partie de la question d'Iris qui me disait qu'elle aimerait ça que je discute plus de mon travail d'aide bibliothécaire, de comment ça se passe en bibliothèque, tout ça. Ouais, ça me fait plaisir, ça va me faire plaisir. Là, je pense que dans cet épisode-là, j'ai déjà comme toutes mes minutes, là, mais je vais essayer de faire un épisode où je raconte, genre, une journée en bibliothèque. T'sais, comment ça se passe, comment je me prépare, tout ça, les interactions que j'ai, tout ça. Ouais, ça serait le fun à faire comme épisode, je pense. Donc, ça me fera un autre petit épisode qui n'est pas à propos de lire des livres. Là. Donc, pour le prochain épisode, je vais retourner à faire des épisodes sur des livres, là, sur des bandes dessinées que je lis. Mais je vais me préparer un épisode comme ça, là, que je vais raconter ma journée, une journée de bibliothèque normale, là, tout ça. Justement, en fin de semaine, notre robot qui trie les livres là, pour les retours, là, quand les gens retournent les livres là, à la bibliothèque Rosemont, on a comme un robot de tri. Puis dans la section jeune, il est tombé en panne. C'était comme on était enseveli de livres. Là. C'était fou. Là. Ça pourrait faire comme des genres d'anecdotes là, que je pourrais vous raconter. Mais c'est sûr que je ne peux pas tout raconter. Il y a des affaires que je dois garder à l'interne. Mais en général, quand même, je peux vous raconter quelques anecdotes. Donc, j'essaierai de faire un épisode là-dessus. Je sais qu'il y a aussi il y a des livres en bibliothèque que c'est des anecdotes, justement, de... d'interaction avec des usagers inusités, disons. Après, j'essaie de retrouver le titre pour vous le faire en suggestion. C'est assez drôle. Puis, j'ai une collègue aussi qui s'appelle Lisa, qui est sur Facebook, elle collectionne des anecdotes de bibliothèque aussi. Donc, je vais préparer un épisode là-dessus. Donc, une des fonctions intéressantes de la plateforme Anchor, c'est que souvent, les différents podcasteurs s'échangent des commentaires audio les uns les autres. Donc, moi, je suis principalement des podcasteurs anglophones qui discutent de différents sujets là, liés à la culture geek, puis tout ça. Puis, c'est ça, ces gens-là, ils se connaissent entre eux autres, ça forme une petite communauté, puis ils s'envoient des messages audio, puis ils se répondent les uns les autres, tu sais, comme ça crée comme de l'animation, ça nourrit les podcasts aussi, c'est, en tout cas, c'est intéressant comme formule. Là, c'est sûr que moi, présentement, je suis, étant donné que je fais mon podcast en français, je peux pas recevoir de commentaires audio de toutes mes amis et des autres personnes que je connais qui font des podcasts en anglais, malheureusement. Puis, je connais personne qui fait des podcasts en français là, sur cette plateforme-là présentement, donc je reçois pas du tout de commentaires audio. Donc, je vous invite à faire des podcasts sur la plateforme Anchor en français pour qu'on puisse développer une petite communauté de podcasteurs francophones. Vous pouvez parler de ce que vous voulez, tout ça. En tout cas, envoyez-moi un lien si vous décidez de partir un podcast. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est ça. C'est la formule punk, ce qui est à dire, de tout simplement de se lancer, de parler, d'enregistrer, puis de se foutre un peu de comment ça sort, de la finition. C'est fait un presque pas de montage. Là, je dis, faites seulement comme... gérer les erreurs que vous faites en parlant, là, mais tu sais, même encore là, tu sais, allez-y là, vraiment le plus direct possible. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. Sinon, si on essaie trop de faire parfait, on fait rien. C'est souvent ça qui arrive. Donc, moi, c'est ça. J'ai décidé de me lancer tout bonnement comme ça. C'est sûr qu'il y a des épisodes que je trouve pas nécessairement idéal ou parfait, mais bon, tu sais, je me lance, je les fais, j'accumule. Puis, j'accumule l'expérience aussi en faisant ça, tu sais, de la pratique. Puis, en tout cas, je trouve que, comme j'avais dit dans le dernier épisode, ça me fait quand même du bien psychologiquement de faire les podcasts. Je sais pas, c'est, je dirais pas que c'est thérapeutique, là, mais c'est, je sais pas, ça me sort du dessin, ça me sort des jeux, des livres, des médiums plus comme papier, là. Fait que je trouve que ça fait un bon changement. Je trouve ça chouette, j'aime ça. Puis, dernièrement, j'ai activé aussi ma chaîne YouTube. Donc, j'ai aussi une chaîne YouTube qui parle principalement de jeux de rôle. Malheureusement. Ben, je dirais pas malheureusement, mais c'est quand même chouette. C'est quand même quelque chose que j'aime. Mais je veux dire, il y a plusieurs personnes qui ne l'écoutent pas parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi les jeux de rôle ou ça les intéresse pas, ce que je comprends très bien. C'est pour ça que je suis contente de faire ce podcast-là qui discute de bande dessinée, qui peut rejoindre beaucoup plus de personnes, puis beaucoup d'amis que j'apprécie. Peuvent l'écouter, donc c'est ce qui est très important pour moi. Puis aussi, c'est parce que je m'ennuie beaucoup du milieu de la BD, tu sais, je suis issu du milieu de la BD. J'ai fait le bac en bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais, qui est maintenant l'EMI, E-M-I. Ça a changé tout ça depuis le temps que moi j'ai fait mes études là-bas. Puis, c'est souvent en 2006, entre 2006 puis 2009, je faisais partie de la vague de blogueurs BD, blogueuses BD, là, avec, notamment avec Iris, justement, là, puis avec Sylviane aussi, avec Ziane, puis fait que ça, c'était chouette, tu sais, puis je m'attendais peut-être à faire de la BD, en tout cas, j'imagine qu'il y avait du monde qui s'attendait que je ferais de la BD, mais bon, ça m'est arrivé des difficultés dans la vie, puis ça a fait que j'ai saboté et annulé plusieurs projets, puis après ça, ça m'a pris du temps avant que je recommence à dessiner, puis maintenant, je fais des zines, tout ça, mais je fais pas vraiment de bande dessinée, j'ai essayé de faire un projet de bande dessinée avec la logique du calendrier, mais j'ai essayé de faire quelque chose de trop gros. Malheureusement, j'avais essayé de reprendre un projet là, qui était supposé faire comme 200 pages, mais c'était beaucoup trop gros pour moi. Là. J'aurais dû me restreindre. T'sais. Un projet plus simple. Mon but principal aurait dû être de tout simplement publier avant toute chose. Une fois que tu as un livre de publier, après ça, j'ai l'impression que ça va mieux. T'sais. Mais si c'est encore là, c'est ça, encore là, c'est le principe d'essayer de faire quelque chose de trop parfait, tout ça, au début. Puis ça fait qu'on réussit jamais à poser la première brique, à faire le premier pas. Et puis, faudrait que j'applique mes propres conseils au niveau de la BD, là. Oh my God. Donc, oui, c'est ça. Fait que je trouve que Anchor, c'est comme une plateforme, je fais de la publicité, là, mais je trouve que c'est une plateforme chouette pour ça, pour ce niveau, sur cet aspect là, communautaire. Là. Donc, je ferais. On peut voir tu sais, les podcasts comme des zines, dans le fond. Que chaque auteur peut faire son zine comme qu'il veut, un peu photocopier tout croche. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est ça, moi je vous invite, n'importe qui peut faire des podcasts, c'est super facile, donc il faut diffuser, surtout si vous avez une voix un peu marginalisée. Moi, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai voulu faire le podcast, là, parce que je me suis dit, bon, ben, tu sais, il n'y a pas beaucoup de femmes trans qui font la diffusion, surtout au Québec, sur des sujets qui m'intéressent. Donc, je dis, bon, ben, je vais mettre au moins ma voix là, tu sais, je vais essayer de faire ma contribution, là. Donc, puis, bon, qu'est-ce que je vais passer à l'étape, attendez, bon, là, je dis n'importe quoi, là. OK, donc, Marc, c'est un de mes amis qui fait du streaming. Il fait beaucoup de streaming de jeux vidéo, de jeux de rôle, tout ça comme ça. Il fait partie d'un groupe de streamers québécois qui s'appelle Les Aventureux. Et puis, ça, du monde sympathique là-dedans. Je pense qu'ils sont peut-être 5, quelque chose comme ça. Au début, c'était mix comme groupe. Et, non seulement quand je dis mix, je dis qu'il y avait une fille. Maintenant, ben là, c'est plus mix, malheureusement. Et puis, mix, ça reste quand même, je trouve, un des groupes qui fait du podcasting de qualité au Québec. Puis, ils font aussi des vidéos YouTube, du streaming, tout ça. Puis, ça porte sur les jeux de rôle. Par contre, il faut s'intéresser à ça. C'est sûr que c'est très niche. Là. En tout cas, donc, Marc m'a envoyé un message. Et puis, on va écouter son message.
Salut Evelyne, c'est Marc. Je voulais te féliciter pour ton épisode qui était sensiblement le plus émotif que tu as sorti jusqu'à date. Mais je voulais te féliciter surtout pour avoir passé au travers puis avoir réussi à le faire puis à le publier. Fait que, bravo. Puis en même temps, je voulais tester, voir si ça marchait le message par vocal. Fait que, on va le savoir, hein, j'imagine.
Donc, merci Marc pour ton message. Oui, ça a bien fonctionné, je l'ai bien reçu. Je te remercie surtout pour avoir brisé la glace. Peut-être que je vais recevoir d'autres messages de la part d'autres auditeurs, d'autres auditrices. Ce serait vraiment chouette. Donc, oui, ça a été un épisode, comme vous avez pu l'écouter, là, ça a été un épisode difficile à faire, tout ça, mais je suis contente de l'avoir abordé, là, d'avoir abordé ce sujet-là. J'aurais pu en discuter un peu plus, c'est certain, par rapport à mon expérience, tout ça. Mais j'aurais aimé ça faire ça avec quelqu'un d'autre, tu sais, pour que ce soit, je sais pas, plus facile, comme émotionnellement, tout ça, avec l'autre personne, avec une autre femme, qu'on aurait pu discuter de ça, ça aurait été intéressant. Mais bon, en tout cas, c'est ça. Mais je l'ai fait. Puis c'est chouette. Puis c'est quand même une bande dessinée très intéressante. Là. Puis comme je disais aussi, surtout ce que j'ai aimé dans cette bande dessinée-là, c'est que le sujet était très intéressant, très prenant, très intense. Mais aussi, je trouvais que artistiquement, le travail qui était fait aussi par Una là, dans cette bande dessinée-là aussi, je trouvais que c'était intéressant, puis c'était bon. Puis, tu sais, je trouve que c'est une bande dessinée qui vaut la peine d'être inclus et consulté, tout ça. Surtout si vous vous intéressez à ce genre de bande dessinée-là, bande dessinée documentaire qui explique des choses, tu sais, qui a un côté comme journal aussi, mais qui est. Comme ça, je trouve qu'il y a comme un certain. C'est devenu comme un genre un peu, ce genre de bande dessinée-là, comme L'autre regard, comme les commandos culottes de Mérion. Ça, je pense aussi aux anciennes bandes dessinées que Sviane postait sur son blog, où qu'elle expliquait des choses, qu'elle discutait de choses aussi. Qui faisait ça aussi? Il y avait Boulet aussi, l'auteur là, web, là, souvent il faisait ça aussi, il se mettait en scène en train de discuter de divers sujets. Fait que souvent ces BD-là, c'est ça, c'est qu'on voit comme l'auteur ou l'autrice qui se met en scène, puis qui discute d'un sujet. Et puis, c'est ça. Ben, il y a aussi une certaine forme là-dedans à explorer tout ça, comment que c'est fait, comment que le texte est utilisé. sais, l'alternance entre des personnages libres dans la page avec aussi des cases de bande dessinée, tout ça. En tout cas, tout ça, ça fait comme un tout ensemble qui peut être intéressant. Sous différentes formes. En tout cas, je trouve qu'il y a comme probablement une étude ou une réflexion à faire là-dessus sur ce genre de bande dessinée-là. Donc, l'une d'elles de Una, c'était un bon exemple de tout ça. S'il y en a une autre que j'ai recommandé, naturellement, c'est le commando culotte de Mérion, que je trouve qu'elle a un dessin vraiment extraordinaire, super expressif, super personnel. En tout cas, moi, je suis vraiment une grande fan de son dessin, je trouve. Ben, c'est sûr que là, c'est mon ami, là, c'est pas évident de... Oh my God! Mais, c'est ouais, je trouve que Mérion, son travail de dessin est vraiment fort. Puis aussi, qu'est-ce qu'elle dit, ses propos, tout ça aussi, sont intéressants. Donc, c'est... Fait que je vous recommande ça aussi, Commando culotte de Mérion. Ça parle beaucoup de culture populaire et de féministe, entre autres d'autres sujets aussi, mais ces deux sujets-là. Je vais conclure l'épisode là-dessus. Donc, en conclusion, je vous encourage à faire des podcasts sur Anchor pour qu'on soit une gang de podcastrices à s'échanger des messages vocaux, puis à s'encourager les unes les autres, puis à parler de différents sujets, puis à mettre notre voix et à s'exprimer. Surtout si vous êtes une personne trans, là, moi je veux comme interagir avec plus de personnes trans, là, s'il vous plaît. Puis, j'aime interagir avec tout le monde. C'est sûr que je dis ça parce que ça me manque, là, mais sinon, j'ai des super bonnes interactions là, avec plein de personnes cisgenres, straight, n'importe qui. Je dis pas ça là, comme que je veux juste interagir avec du monde qui partage mon identité, là, mais c'est sûr que ça me fait du bien, tu sais. En tout cas. Puis, sinon aussi, je vous encourage à aller visiter en bibliothèque, puis emprunter des livres, réserver des livres aussi. C'est important de réserver des livres que vous aimez. C'est comme ça. Puis, envoyez-moi des messages vocaux, ou sinon, envoyez-moi des courriels pour me faire des suggestions de thèmes, de lectures, de choses que vous aimeriez que j'aborde dans mon podcast. Si ça rentre un peu dans le cadre là, qui est assez large, là, qui est assez ouvert de mon podcast. Ça me fait plaisir d'en discuter puis d'en parler, là. Ça serait chouette, là. Une affaire que je pourrais essayer de faire à un moment donné, un jour, ça serait peut-être de faire une entrevue, tu sais. Ça, je pense que je suis pas prêt pour faire des entrevues. C'est ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. J'ai fait quand même des pas pires entrevues avec mon ami Marc, justement, là. Puis, je m'en suis d'en faire, mais sauf que ce qui est difficile avec Anchor, c'est dur de faire ça en ligne. Il faudrait que la personne vienne chez moi, puis qu'on parle tous les deux au micro, tu sais, ensemble. Donc, c'est un peu plus difficile à coordonner, mais j'ai quand même des amis, peut-être quelques amis, là, qui pourraient venir chez nous, puis qu'on pourrait faire comme une entrevue, là, comme genre Iris. Ça va être... spécial podcast promotion Iris, oh my god. Ah oui, Iris, tu sais, elle me dit l'autre jour, elle me dit « Hey, ma BD, Justine, là, ça se passe en région, tu parlais dans l'épisode mon ami le Yeti. » Non, c'est quoi déjà? Je me rappelle déjà plus du tout. En tout cas, la BD de Pascal, là, que il n'y avait pas beaucoup de BD de femmes en région, là, mais que Justine, c'est une BD de femmes en région. Mais là, j'étais comme, ouais, mais oh, est-ce que ça compte vraiment comme une région? Tu sais, c'est quand même un centre urbain, là. En tout cas. je trouvais ça drôle. Mais ouais, c'est vrai, j'en parlerai de Justine à un moment donné. Je ferai un épisode là-dessus. Je regarderai ça aussi. Si vous avez d'autres idées aussi de BD comme ça, là, écrites au Québec, qui parlent de femmes ou de personnes marginalisées qui sont en région, je serais curieuse de lire ça. Ou peut-être qu'il y a des affaires que j'ai déjà lues, mais qui me viennent juste pas en tête non plus. En tout cas, ben, on en reparlera. Donc, oui, tu sais, correspondez avec moi, envoyez-moi des messages, nourrissez-moi et mon podcast, si vous voulez que ça soit comme un podcast vivant et plein d'énergie. Donc, je vous adore, puis, donc, prochain épisode, je vais parler d'une bande dessinée, donc, probablement Le Prince, la Couturière, comme j'avais dit dans l'épisode précédent. OK, merci, au revoir.